Juste avant de démarrer le message, juste faire peut-être un appel. Vous savez, la vie, il y a des combats. Et c'est étonnant, mais c'est un peu aussi le sujet du message. Et il y a un combat actuellement qui se mène, spirituel. Et il y a Raymond qui, c'est en rapport avec Anna. Et moi, j'inviterai, s'il y en a quelques-uns qui veulent se joindre à lui pendant ce moment de culte, pour prier pour Anna pendant ce moment. Il y a quelque chose qui se passe et je pense que c'est l'occasion vraiment de pouvoir se mettre à genoux et prier pour le Seigneur, pour Anna. Nous sommes vraiment dans la réalité de notre vie chrétienne. Oui, ça peut ébranler. Il y a des difficultés aussi parmi les chrétiens et c'est difficile de dire, de vivre ces moments-là, mais on a besoin d'être fortifié, on a besoin d'avoir de la force. Et je voudrais vraiment que on ait ainsi ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et par la bouche de Paul. C'est dans Éphésiens 2, verset 10, qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est dur d'introduire ce moment-là, de prier, sachant qu'il y a des bonnes œuvres, et alors que des fois, on ne voit pas ces bonnes œuvres-là. Alors, ce matin, on a eu une introduction par rapport à cette mer, par rapport à ce monceau. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est que comme cette montagne qui peut être déplacée, la mer aussi peut être déplacée. La mer, c'est souvent ici une image du monde dans la Bible. Cette mer qui est mouvante, qui nous enveloppe complètement, qui peut nous submerger et nous noyer. Mais on sait, comme pour Jonas, le bras de notre Dieu n'est pas trop court pour nous arracher de cela. Il a la capacité d'ouvrir, comme il a fait dans la traversée de la mer Rouge, d'ouvrir cette mer pour que le peuple puisse être libéré de la domination de l'ennemi. Il a été possible aussi que sur le Jourdain, un monceau puisse se faire sur le côté pour que le peuple puisse enfin avoir accès à la promesse. Et à côté de ça, nous sommes ici, ce petit troupeau, cette église dans laquelle il y a une énorme richesse, une énorme puissance, parce que Christ est au milieu de nous. Et tout le long de cet été, moi j'ai pu être témoin de ces choses-là, de cette vie que Dieu met dans nos vies, dans cette vie qu'il veut nous faire apprendre à vivre ensemble. On a pu ressentir vraiment cette présence apaisante de notre Dieu, particulièrement lors de la semaine du camp d'été. On a vécu cela aussi lorsqu'on a partagé ces moments avec le mariage d'Anne-Laure et Mathieu. On a eu des différents cultes, des moments de partage, des réunions de prière, où on a vu aussi pu vivre avec le témoignage de la famille Haddad au Liban, à la frontière avec la Syrie. On a été appelé à intercéder pour Jacques Cuypers suite à ses brûlures, ainsi que Mélanie aussi, qui a été en proie à des difficultés dans son ministère à Madagascar. Et là, on continue. Il y a des combats à mener. Et ça nous rappelle qu'on n'est pas là pour lâcher prise. On n'est pas là pour dire que tout va bien. On voit que dans la terre, sur la terre ici, il y a des souffrances, il y a des combats à mener. Et moi, tous ces moments particuliers me font apprécier vraiment la vie d'Église et me permettent vraiment de ressentir cet amour mutuel qui fait que nous pouvons, malgré tout cela, demeurer dans le calme et la confiance. Tous ces moments nous font réaliser combien les projets de notre Dieu, dans lesquels il nous intègre, sont parfaits et comme il est bon d'être son ouvrage, d'être créé en Jésus-Christ pour pratiquer vraiment les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. C'est ce verset que j'ai rappelé au tout début. Ainsi, dans des petites choses ou dans de plus grandes, bien sûr, nous sommes témoins de cette œuvre de création que notre Seigneur effectue chaque jour, sans que nous nous en apercevions toujours. C'est pourquoi il est vraiment bon de s'arrêter un peu aussi pendant les vacances, ça a été vraiment bon pour moi. Je sais que ça a été aussi pour Nicolas, pour considérer vraiment toutes ces bénédictions extraordinaires qui se trouvent en Jésus-Christ. C'est la période de la rentrée et on a besoin d'être encouragés, que ce soit dans nos propres vies, dans nos familles, dans nos études ou notre travail, ou encore, bien sûr, on le voit encore ce matin dans nos églises, beaucoup de questions, peut-être des excitations, peut-être, quelquefois des inquiétudes. Quand est-ce qu'on va vivre dans ces prochaines semaines? Et c'est pour ça que je vous propose vraiment ce matin de prendre un temps pour nous encourager, pour nous fortifier en nous rappelant ce que veut dire être créé en Christ. C'est toujours dans l'Épître aux Éphésiens et Paul nous encourage. Éphésiens 6, verset 10. Est-ce qu'on peut l'afficher? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi avons-nous besoin de nous fortifier? Je ne vais pas vous faire un dessin. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes désormais vivants. Avant d'être sauvés, nous vivons conformément à ce que le monde sans Dieu offre et nous sommes programmés à cause de notre chair pour vivre dans l'indépendance à l'égard de Dieu. Et ça, Dieu, ça le dérangeait. Et c'est pour ça que le Seigneur, par son œuvre, nous a rapprochés alors qu'on était loin. Et l'apôtre Paul parle souvent de la chair comme étant le moyen par lequel l'indépendance et la rébellion vis-à-vis de Dieu ont leur racine dans le cœur humain. Mais bien que nous soyons de nouvelles créations en Christ, cette ancienne nature veut continuer à manifester ses mauvais réflexes. Dieu nous a donné la vie éternelle, évidemment. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous sommes déconnectés de la réalité de notre monde. Au contraire, il nous est dit que nous mettons en œuvre avec crainte et tremblement notre salut pour ne pas nous conformer au monde, mais plutôt pour être renouvelés dans notre intelligence. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, car c'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire. Ainsi fortifié en Christ, c'est-à-dire plus que jamais conscient de son action constante à notre égard, ben nous laissons plus volontiers notre intelligence aussi se renouveler par le Saint-Esprit. Et cela pour conséquence, dans nos vies pratiques, de corriger nos mauvaises attitudes en laissant peu à peu la lumière divine éclairer et révéler tout ce qu'il y a de ténèbres en nous. C'est David dans le psaume 139, il priait pour que Dieu sonde son cœur, pour que Dieu connaisse ses pensées et pour que Dieu regarde s'il était sur une mauvaise voie. Mais c'est vraiment exactement maintenant ce que fait le Saint-Esprit en nous, dans nos cœurs, si nous le laissons agir. Donc il œuvre d'abord pour nous convaincre de nos péchés, puis il nous révèle peu à peu nos mauvaises voies, pour enfin nous diriger sur la voie de l'éternité. C'est comme ça que David aussi voit la chose. Et on a facilement tendance à ne pas entrer jusqu'au bout dans cette œuvre de sanctification que le Saint-Esprit veut opérer. Notre culture, notre éducation fait qu'on comprend assez bien que Dieu juge, qu'il nous sonde, qu'il regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Et merci au Seigneur qui nous interpelle encore et toujours. Mais souvent, on reste là, on s'arrête là. Car finalement, au lieu de laisser le Saint-Esprit nous conduire sur la voie de l'éternité, ben souvent nous entendons et écoutons vraiment, bien souvent, plus facilement le diable, l'accusateur des frères, qui nous accable, qui nous culpabilise pour nous priver de toute bénédiction spirituelle. C'est ce qui entraîne cette attitude de repli sur soi, de mise en retrait volontaire, ou même de privation de moments de communion en décidant de ne plus venir au culte, par exemple. Quand nous nous considérons indignes du pardon de Christ, et nous avons tous été un jour ou l'autre dans cette situation inconfortable, jusqu'à aller se sentir indignes de l'amour de Dieu ou celle de nos frères et sœurs. Alors si cela vous arrive d'être dans cette impasse, ou si vous êtes en ce moment dans cet état d'esprit, osez dire merci. Merci à notre Seigneur de nous avoir révélé votre péché, et surtout confessez-le et faites cette prière de David, « Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors que le diable veut nous faire croire que nous sommes plus ténèbres qu'il est lui-même, notre Seigneur, on l'a chanté, nous voit plus blanc que la neige. Quant à nous, avec quels yeux on se voit? Allons-nous nous laisser diriger par le diktat accusateur de l'ennemi de nos âmes, vaincu à la croix, ou bien laisser l'œuvre de création de Christ renouveler notre intelligence? Notre force est en Christ. Laissons-nous gagner par cette vérité. Désormais, notre identité est en Christ. Et par conséquent, puisque notre cité est dans les cieux, puisque nous sommes assis maintenant avec lui dans les lieux célestes, préparons-nous à cet état éternel en menant une vie juste comme notre Dieu nous l'a préparé à l'avance. Tout le long de l'épître aux Éphésiens, Paul rappelle à plusieurs reprises quelle est notre position en Christ, comme pour nous convaincre que notre identité est belle, que notre identité est en Christ et non plus dans notre ancienne nature qui est orientée vers le péché. J'ai entendu une fois dire que l'épître aux Éphésiens, c'est une lettre qui explique la vie chrétienne. Mais comment peut-il en être autrement de notre vie chrétienne si, comme nous le rappelle à plusieurs reprises cette lettre, nous mettons notre identité en Christ? Dès le début de cette épître, il n'y a pas d'autre place possible pour nous si ce n'est en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Je ne sais pas vous, mais moi ces versets m'encouragent, ils me fortifient particulièrement, car ils montrent clairement et exclusivement la position des enfants de Dieu. Ils montrent ma position d'enfant de Dieu en Christ maintenant. Ce sont peut-être les versets qui assoient le mieux notre identité en lui. Et ainsi, les bénédictions surabondantes dans les lieux célestes nous sont librement accessibles. Ce n'est pas des mots, ça. On peut se laisser décourager par tout ce qu'on voit, par les pleurs, par les cris, par les larmes. C'est une réalité de dire que nous sommes librement, nous avons ce libre accès dans les lieux célestes en Christ. Et on a besoin de se fortifier dans ces pensées-là. Et si nous faisons lecture donc de cette lettre, nous verrons qu'ainsi, en Christ, tu peux afficher la suite, nous avons accès à la source divine et spirituelle de toute bénédiction. En lui, nous sommes élus avant la fondation du monde. Ces choses, tout est préparé à l'avance. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous sommes devenus héritiers. En lui sont déployées toutes les ressources nécessaires à notre vie chrétienne. En lui, nous menons une vie nouvelle. Et oui, elle est en Christ, elle est dans les lieux célestes, elle est toute nouvelle. Et enfin, en lui, nous avons été rapprochés pour vivre notre unité avec l'ensemble des croyants. Ainsi, les deux premiers chapitres abordent chacun de ces points pour nous encourager à réaliser concrètement quelle est notre position en Christ. Peut-être dans certains de ces points, nous avons du mal à intégrer à 100% que c'est en Christ que nous avons notre identité. Car nous préférions que ce soit vraiment notre propre nature, notre propre identité qui s'épanouisse. Et par contre, dans d'autres, nous avons plus de facilité à nous laisser aller à cette dépendance. Mais bel et bien, le projet de Dieu est de nous faire demeurer en Christ pour qu'il croisse et que nous diminuions. Mais concrètement, qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que ça change dans nos vies chrétiennes, me direz-vous? Mais pour imaginer cela, je vous propose de faire un retour de 3400 années en arrière et de considérer le récit de la conquête du pays de Canaan par Josué et les fils d'Israël. Ainsi, dans le plan de Dieu, Lors de la première alliance, le plan de Dieu était de vivre au milieu de son peuple et d'y établir sa demeure dans la mesure où le peuple respectait la loi, les ordonnances. Et dans la seconde alliance, le plan de Dieu est de faire sa demeure par le Saint-Esprit dans le cœur des croyants et sans faire aucune distinction. Alors que la première alliance est adressée au peuple élu, la seconde alliance nous est adressée à chacun personnellement, sans distinction de race et de sexe. Après 40 ans dans le désert à tergiverser, ce peuple est enfin prêt à pénétrer dans le pays de la promesse. Ce pays ruisselant de lait et de miel, ce pays béni de toute bénédiction spirituelle. Vous savez que toute la parole est inspirée de Dieu et que ces récits nous sont donnés pour notre édification. Il me semble donc intéressant de faire une nouvelle fois un parallèle entre nos vies en Christ et les différentes péripéties que le peuple a été amené à vivre avec Dieu. Et même si nous ne comprenons pas tout, par exemple, pourquoi Jacob a été invité à s'établir en Égypte alors que ce peuple a été contraint à la suite à demeurer vraiment dans la servitude, dans l'esclavage en Égypte. Oui, il y avait la famine en Canaan. Oui, Dieu savait qu'à la suite de la sortie du pays d'Égypte, c'était une occasion d'être glorifié, mais surtout c'était l'occasion d'instaurer la Pâque et aussi d'annoncer le moyen de salut pour l'humanité entière, Jésus-Christ. Malgré quelques prophètes qui avaient reçu la destinée du Messie, très peu imaginaient qu'il allait être l'agneau, la victime parfaite. Finalement, tout comme à la sortie de l'Égypte, le pharaon lâche prise et laisse aller le peuple d'Israël, à grand renfort de manifestation de la puissance de Dieu, Christ triomphe de l'ennemi à la croix et traverse la mort jusqu'à la résurrection. Tout comme le peuple entier qui traverse la mer Rouge est délivré de la servitude, ce miracle, nous qui acceptons individuellement de suivre Jésus-Christ, nous sommes délivrés à jamais de la culpabilité du péché, puisque la justice s'est focalisée sur lui. La justice de Dieu s'est focalisée sur lui. Ainsi comme le peuple a erré 40 ans dans le désert, nostalgique de la nourriture égyptienne, il me semble aussi que, à notre tour, nous pouvons vivre ainsi notre vie chrétienne, comme un fardeau, nostalgique de tout ce que le monde offre comme plaisir, mais tout en étant toujours au bénéfice du salut. Nous pouvons donc ne pas réaliser que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, malgré la présence de Dieu en nous. Nous pouvons donc trouver cette vie chrétienne comme étant la normalité, tout comme la génération d'Israélites s'est contentée pendant 40 ans de la manne et de la nuée. Ainsi, dans le désert, au fil du temps, la manne, qui était image de la parole de Dieu, est devenue insipide. Pourtant, le plan de Dieu pour son peuple, c'était la traversée du Jourdain, puis l'accès au pays ruisselant de lait de miel. Et là encore, comment se fait-il qu'il y en ait parmi ce peuple qui n'ont vu que l'abondance des fruits de ce pays et d'autres qui ne voient que les combats qui sont perdus d'avance ? Pour nous, est-ce que ce n'est pas la même chose? Alors que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes, en Christ, est-ce que nous continuerons à douter de la parole toute puissante de Dieu, jusqu'à négliger notre œuvre, notre vie en Christ? Voilà encore une bonne raison d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le Seigneur le sait très bien. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. D'où cette nécessité de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il nous faut être conscients que s'approprier cette vérité a des conséquences qui coûtent. Tout comme la génération incrédule n'a pas pu entrer dans le pays, notre nature incrédule doit y laisser sa peau aussi. Et tout cela ne se fait pas tout seul. Voilà encore pourquoi il faut nous fortifier par la force toute puissante de notre Seigneur. Et tout cela pour empêcher le programme de notre nature nous déconnecter du projet de notre Créateur. Et c'est exactement dans cette situation que Josué se trouvait avant la traversée du Jourdain. Dieu lui annonçait à la fois la future désobéissance du peuple et la mort prochaine de Moïse. Et à la fois, il lui annonçait la promesse de ce pays où coule le lait et le miel. C'est dans le livre de Deutéronome 31, verset 20. « Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasira, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. » Là, il me semble que Josué se prend une sacrée douche froide. Tout ce en quoi il croyait, tout ce en quoi il avait mis son identité, s'apprête à disparaître. Dieu annonce que Moïse, l'homme de Dieu, le patriarche, ne passera pas le Jourdain. Il mourra là. Et Dieu prévient de la désobéissance future de son peuple, alors qu'ils n'ont jamais été aussi près là de ce pays, de ses promesses. Finalement, tout va bien. Et comme la promesse de Dieu, vraiment, comment, oui, la promesse de Dieu peut-elle se réaliser dans ces conditions? Et bien souvent, dans la parole de Dieu, c'est toujours ce même schéma. Quand tout semble désespéré, quand tout semble s'écrouler, là, pour Josué, c'est le cas, ben, c'est justement Dieu qui reprend la main. Et voici avec quel mot il se manifeste. Deutéronome, donc, c'est le verset 23 de ce même chapitre. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Pourtant, Josué avait déjà entendu cela, parce que si on lit plus tôt, versets 6 et 7 de ce même chapitre, Moïse déjà avait dit exactement ces mots, fortifie-toi. Et courage, fortifie-toi par deux fois. Mais la perspective des combats menés, finalement, elle est guère engageante pour Josué. Et bien entendu, le doute s'installe. Il faut donc bien sûr l'encouragement direct et public de Dieu, grâce à la certitude de la force toute-puissante de Dieu à ses côtés. Moïse, puis Dieu, sont conscients de la décision cruciale que Josué doit prendre ici. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un ordre. L'Éternel donna ses ordres. Il lui a dit en gros, tu arrêtes là, tu arrêtes ta trop longue promenade dans le désert et maintenant tu traverses le Jourdain pour disposer de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et quand Dieu prend la main, la certitude prend place au doute. Et c'est pourquoi par quatre fois dans le premier chapitre de Josué, l'Éternel encourage et répète ces mots, fortifie-toi et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et bon courage. Fortifie-toi car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et j'aime bien encore pousser ce parallèle jusque dans nos vies chrétiennes, et entendre ces encouragements directs de Dieu avec celui aussi de Paul, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, en nous rappelant que nous sommes bénis dans les lieux célestes, en Christ. Il se peut que finalement nous soyons satisfaits de notre vie chrétienne. Et tout comme les fils d'Israël se contentaient de la manne et de la nuée, sans envisager la réalité des bénédictions spirituelles, là, toute proche. De faibles que nous sommes, Dieu nous rend forts pour que nous prenions possession de notre identité en Christ. Bien sûr, nous avons peut-être de très bonnes raisons pour ne pas adhérer à cette démarche. Mais n'est-ce pas un ordre vital, vraiment pour chacun de nous aussi? Tant qu'Israël était dans le désert, il était reclus sur lui-même, en proie bien souvent à des conflits internes. Il en est de même pour nous. Tant que nous n'avons pas pris conscience de notre identité en Christ, et de notre force en lui, nous continuerons à lutter contre le sang et la chair sans pouvoir déjouer les ruses du diable. Ne nous trompons donc pas de combat. Dès que nous prenons notre place dans les lieux célestes, nous prenons part au combat spirituel pour lequel nous sommes destinés. Comme pour le peuple qui a dû se lever à plusieurs reprises pour finalement voir les murailles de Jéricho s'écrouler, et tout cela miraculeusement, fortifions-nous à notre tour avec cette pensée vitale. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence pour que nous traversions notre Jourdain, pour entrer de plein pied dans cette nouvelle vie en Christ et être conduits dans la voie de l'éternité. Ici-bas, cette nouvelle vie nous réserve des combats. Et franchement, ce matin, c'est encore le cas. Et je crois pas me tromper en vous assurant qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, et de plus en plus. Mais ces combats, Dieu veut les mener devant nous. C'est lui qui a la tête. Dans tout ce que nous entreprendrons, c'est une promesse, c'est une vérité, il est là avec nous. Fortifions-nous vraiment avec ces pensées. Celui qui est avec nous est plus fort que ceux qui sont contre nous. Alors, c'est l'affaire personnelle, mais c'est aussi l'affaire de l'Église. C'est bien sûr Christ qui fait cette œuvre en chacun de nous, c'est son plan par rapport à la première alliance. Maintenant, il veut faire la demeure, il veut que toi, individuellement, tu demeures en Christ. Mais c'est aussi une affaire d'Église, c'est une affaire de communauté où ensemble aussi, nous voulons demeurer en Christ pour mener ces combats spirituels. La suite de ce chapitre 6, on sait que voilà, notre combat, il n'est pas contre le sang et la chair, mais comme il est contre les principautés, autorités dans le lieu céleste. Il est contre notre vieille nature dans laquelle le diable veut dominer pour nous faire oublier, nous faire cacher toutes ces bénédictions spirituelles qui sont en Christ. Non, voyons ce voile déchiré, voyons la gloire de Dieu qui nous est accessible. Fortifions-nous vraiment dans ces pensées-là. Et je voudrais terminer vraiment par la prière. Oui, Père, merci pour cette place que tu nous as réservée. Merci pour tout ce que tu as préparé à l'avance pour nous. Et tu nous fais demeurer toujours sur cette terre. Tant que nous sommes ici, nous sommes ainsi une barrière, nous sommes un obstacle pour l'ennemi qui veut anéantir, qui veut engloutir toute cette parole, toute cette promesse, toute cette vie que tu as mis en chacun de nous. Et nous nous attendons encore à toi pour que tu sois au devant, pour que nous puissions te voir dans nos vies chacun, pour que nous puissions être fortifiés en toi dans ces jours qui viennent, dans ces mois, des semaines qui viennent. Et vraiment, Père, on te prie encore pour Anna, on te prie pour que cette situation qu'on ne connaît pas, toi tu ne connais pas, tu connais au contraire bien mieux que nous. Et vraiment, au nom du Seigneur Jésus, on te prie que tu fasses cette œuvre de paix, cette œuvre de joie, de sérénité dans son cœur, dans sa vie, et que tu la protèges vraiment particulièrement. Oui, nous sommes heureux sans avoir honte de notre situation, parce que nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres, mais de pouvoir nous approcher de toi ainsi, de pouvoir mener ces combats les uns pour les autres, c'est ton plan. Tu vois, des fois, comme nous nous démenons, nous cherchons à régler nos problèmes, alors que tout simplement, nous voulons te les remettre, parce que nous savons qu'en toi, nous sommes vainqueurs, en toi, nous avons cette force. Et merci encore ce matin de déroulement de ce culte, de tout ce que tu permets, de tout ce que tu nous as appris ce matin. Parce que nous voulons demeurer en toi. Nous voulons toucher toujours plus près de nos ressentis, ta présence, la présence du Saint-Esprit qui nous habite. Et on te prie pour que ce soit général à chacun d'entre nous, qu'il y ait cette soif, que tu fasses cette transformation et que tu nous libères totalement pour que nous ayons accès à toutes ces à ce pays de la promesse. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.
Merci Pierre de ces rappels, de notre travail. Nicolas parlait de temps de vacances qui se termine. Pour certains, il va commencer, c'est bien aussi. Mais je crois que c'est un temps dont on a besoin les uns les autres. Et Dieu nous rappelle aussi qu'il a besoin de nous dans sa mission, dans son travail, dans son champ. Et il a besoin qu'on soit à l'œuvre, donc on ait aussi des temps pour se reposer. Les activités reprennent, les activités de cette semaine. Vous allez voir comment elles reprennent vite. Demain soir, conseil à 19h30, priez pour le conseil. Je crois que c'est important aussi qu'on puisse prendre aussi du temps pour remettre les choses en place aussi là où elles doivent être mises. Mardi soir, réunion de prière ici, 20h30, important. Réunion de prière de toute l'église ici à 20h30 donc. Jeudi, pour les moniteurs d'école du dimanche, réunion de moniteurs. Je redis, hein, les moniteurs, réunion chez Emmanuel et Rebecca. C'est encore un petit peu l'été. Emmanuel a dit qu'il fallait prendre son maillot de bain. Donc la réunion a lieu dans la piscine et à côté aussi. Hein. Voilà pour jeudi soir pour tous les moniteurs. Dimanche, notre culte. Ici, nous aurons la présentation de Mathieu Perronard et de Neil Goldschmidt. Voilà pour les activités de cette semaine. Et puis, Pierre l'a rappelé. Tout ce mois d'août spécialement, on a décidé de prier pour Mélanie, pour la famille Haddad, de prier pour Jean-Michel et Anne aussi, je crois que ça s'impose plus que jamais. Et puis on avait dit qu'on prierait pour Jacques, Nico tu l'as rappelé, et ce matin je suis au courant des infos par Guylaine qui m'aime les petits mails régulièrement, des tout petits bouts de mails, et ce matin elle me dit « Jacques il va bien, il va plus que bien ». Elle me dit, même le médecin ne comprend pas. Et avec un grand sourire, elle m'a dit après, tu vois que ça marche. Je crois que si ça, ce n'est pas une réponse, alors on veut se réjouir. Moi, je vous invite à aller voir sur le site. Sur le site, j'ai mis l'adresse de Jacques. Adresse, petite carte, sympa, je crois que ça lui fera vraiment plaisir. On lui a envoyé une carte dimanche passé, tous, on avait tous signé. Mais c'est sympa de mettre une petite carte individuelle aussi, pour lui faire un petit coucou, puisqu'on voulait être... en lien avec lui. Je vois que c'est vraiment, vraiment ce dont on a besoin, c'est aussi de partager ce genre de choses aussi les uns pour les autres. Pensons aussi à Mike, continuez à prier pour Mike. Si vous n'êtes pas au courant, Mike a reperdu son permis de conduire. C'est pas qu'il l'a égaré, hein. C'est qu'on lui a repris. Il y a eu une histoire d'administration qui n'était pas juste, et il était vraiment fâché après l'administration parce qu'ils lui ont annulé son permis de conduire. Donc voilà. C'est aussi compliqué pour lui, on veut aussi penser à lui, je l'ai vu cette semaine, il a vraiment besoin qu'on pense aussi à lui. Voilà, je n'ai pas d'autres infos à vous donner, d'autres nouvelles, Nicolas ? Oui ? Oui, oui.
Je me permets juste de vous rappeler le concert qu'on organise avec Virage, donc le concert d'héritage, vous avez vu les affiches. J'ai envoyé un peu des mails, je ne sais pas, un peu à gauche, à droite, pour où il y a l'adresse du site où on peut réserver les billets. Je rappelle que, bon, on s'est aussi penché devant le Seigneur pour ce projet et on a vraiment voulu laisser le côté financier, on va dire, un petit peu de côté, mais c'est quand même le nerf de la guerre, hein, on ne fait rien sans argent. Et on a fait des places à 9 euros pour les adultes et à 6 euros pour les moins de 15 ans. Donc voilà, c'est vous diffusez ça. Et on aurait besoin éventuellement. C'est pas éventuellement, c'est qu'on aurait besoin d'une une ou deux personnes le vendredi matin pendant une ou deux heures de temps, l'histoire de nous aider à débarrasser les caisses. Et puis peut-être aussi dans l'après-midi d'une personne à partir de... dans l'après-midi aussi, quelques heures. S'il y en a qui veulent se porter volontaire et nous rejoindre, et, ben, vous êtes les bienvenus. Vous verrez que cette petite entreprise Virage, ben, on fait ça cool. Hein. Il y a pas de... Voilà, ça va bien. Merci.
Voilà, le concert, il est le 13, vous avez les affiches au fond, des papillons, vous pouvez les prendre. Je rappelle juste que Nicolas parle de Virage, et peut-être vous n'êtes pas au courant de ce qu'est Virage exactement. Virage est une association qui promeut, on dit comme ça, hein, c'est drôle ce nom, hein, qui s'occupe d'artistes chrétiens notamment, qui promeut des concerts, et qui est au service des églises aussi, pour un tas d'entraides, de sonorisation et d'organisation. Voilà, je vous invite à vous lever. Et je vous lirai quelques, en relation avec ce que nous avons entendu ce matin, quelques encouragements que Paul donne dans ses lettres qu'il écrit aux églises. Et il met notamment aux Philippiens, par exemple, « Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, Ça ne veut pas dire ne faites rien, hein, mais en toute chose, par la prière et la publication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis aux Corinthiens, il disait, « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, dit Paul. » C'est pour les femmes aussi, hein. Ça veut dire soyez costauds, fortifiez-vous, que parmi vous, tout se fasse avec amour. Et la fin de l'épître de Paul aux Philippiens, l'église de Philippe, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu, notre Père, la gloire au siècle des siècles. » Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment chacun.